CFM Corde, le mag.
Dans ce magazine, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Elsa Dorlin, professeure de philosophie politique contemporaine à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Bonjour Madame Dorlin.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, écrivaine et autrice de plusieurs ouvrages sur les questions de genre. Et récemment, vous avez coordonné l'écriture d'un livre intitulé « Feu, point d'exclamation, abécédaire des féminismes présents » sur lequel on se penche sous peu. Mais d'abord, j'aimerais savoir ce que représente pour vous ce 8 mars et cette journée internationale pour les droits des femmes.
C'est une journée importante qui permet de visibiliser en fait l'ensemble des mouvements féministes et des mobilisations et des revendications. Mais bon, c'est le seul écueil, c'est que ça devrait pas se réduire à une journée et que c'est dommageable en fait qu'on parle des droits des femmes et des mouvements juste le 8 mars. Il faudrait que ce soit bien plus normalisé dans l'ensemble de l'actualité et des enjeux politiques.
Oui, alors je ne sais pas si vous êtes au fait de l'historique un peu de cette journée, mais en tant que prof de philosophie politique, que pouvez-vous nous dire sur cette journée célébrée aujourd'hui internationalement et dont les racines, j'ai trouvé ça, sont en Russie en 1917.
Oui, et c'est une journée en fait de grève et de mobilisation des femmes ouvrières, prolétaires et qui ont vraiment été en fait dès la fin du 19e siècle partout en Europe en fait qui ont généré des mobilisations vraiment révolutionnaires et insurrectionnelles, pas seulement d'ailleurs sur la question des droits mais sur la question du travail, des conditions de vie, des revendications liées au corps, à la liberté et à l'ensemble des dénonciations en fait des violences qui étaient faites, mais sur un large spectre qui relève à la fois évidemment des violences sexuelles mais aussi des violences sociales, politiques, des privations d'accès à un certain nombre de ressources comme l'éducation, l'autonomie matérielle. Donc voilà, c'est une mobilisation historique mais qui n'est pas une mobilisation gentille où on demande poliment à l'État s'il daigne nous donner des droits. C'est plutôt une mobilisation historiquement qui a été dans des modes insurrectionnels et de grève internationale.
Une conjonction donc de lutte, un sujet sur lequel on va revenir un peu plus tard parce que ça vous intéresse aussi dans vos sujets de recherche et dans vos écrits. Revenons-en à votre actualité d'écrivaine. Vous avez coordonné l'écriture d'un livre collectif qui explore les différentes initiatives contre une société, disons, patriarcale. Feu, abécédaire des féminismes présents aux éditions Libertalia et qui se focalise sur ces 20 dernières années. De quoi il est question concrètement dans cet ouvrage, Madame Dorlin?
C'est un ouvrage qui traite, oui, effectivement, des féminismes de ces 20 dernières années. Donc, c'est un peu sur l'histoire présente, mais c'est surtout sur une histoire souterraine ou non plus, on va dire, qui est moins sous le feu d'un éclairage médiatique sur des féminismes, justement, qui sont les plus radicaux, qui ont produit, en fait, des imaginaires, mais aussi des mobilisations qui sont liées à l'autonomie, à l'auto-organisation, à des formes de solidarité internationale et qui sont vraiment sur des enjeux où, encore une fois, il s'agit de lutter en fait pour un certain nombre de ressources et de libertés, mais sans demander à quiconque. Et c'est aussi durant ces 20 dernières années, en fait, tout ce qui permet de comprendre comment on en est arrivé à MeToo, c'est-à-dire tout ce qui a permis vraiment un renouvellement de la politisation des violences sexistes et sexuelles et qui permet de comprendre en fait qu'il ne s'agit pas d'enjeux liés à une forme de sexisme un peu résiduel, malheureux, ça et là, chez certains, mais qu'il s'agit plutôt d'un système d'oppression, en fait, qui permettent de comprendre comment le patriarcat s'articule vraiment au néolibéralisme et à des formes de racisme très ancrées dans la contemporanéité.
Oui.
Donc c'est un ouvrage collectif en fait avec à la fois oui plus d'une à peu près 70 contributions de personnes engagées mais qui viennent d'horizons très différents et qui permettent d'avoir une sorte de constellation du féminisme un peu underground mais radical quoi et qui converge vers un renversement du patriarcat.
C'est vous qui avez fait appel à ces 70 contributrices. Comment est-ce que vous avez fait votre choix de faire appel à une telle ou une telle?
Ben, c'est des personnes qui sont vraiment très représentatives à la fois de collectifs, à la fois dans leur trajectoire, dans leur engagement. Donc il y a à la fois des syndicalistes, des universitaires, des journalistes, des artistes, des autonomes, je pense par exemple aux zadistes. Et puis à la fois il y a des éclairages sur l'international évidemment avec le Rojava, avec y compris les apatistes. Et en fait, toutes les personnes qui ont contribué à cet ouvrage sont toutes des personnes que j'admire et que j'aime, avec lesquelles j'ai pu militer, penser, agir, faire la fête, rire, penser. Et donc voilà, c'est plutôt un choix d'amour.
Un pool de femmes contributrices, de profils et d'expériences différentes.
Comment il y a des hommes aussi. Ouais.
Il y a des hommes aussi, oui, qui témoignent ouais. dans cet ouvrage.
Parce non, que... ils ne témoignent pas en fait, ils contribuent. Ouais.
Ok. Et... Mmh.
Ouais.
Comment il est organisé ce livre? Sous forme de chapitres
C'est un abécédaire,
ouais.
Donc c'est par lettre.
Mmh.
Et donc chaque lettre en fait est une entrée qui soulève un enjeu. Sur la question, sur des questions aussi diverses que les règles, sur les pratiques de squat, sur les ladyfests, sur la révolution, sur l'intersectionnalité, sur l'idéologie patriarcale, sur les questions aussi liées à l'amour, sur les questions liées à la prison. Il y a un très beau texte sur finalement qui restitue aussi ce que c'est un engagement féministe contre la prison, contre des formes d'enfermement et sur un état répressif, et qui montre comment, au fond, une très grande partie du féminisme n'est pas à demander plus de répression sur des comportements sexistes, mais qui est plutôt, encore une fois, de demander des comptes à un système à la fois tenu par l'État et par le capitalisme et qui en fait génère des inégalités structurelles.
Et sur ces deux décennies-là, vous vous êtes vraiment focalisé sur les mouvements féministes depuis le début de ce siècle. Pourquoi ce choix-là, de se cantonner à cette période-là?
Ben parce que y a un enjeu aussi lié à la façon dont le débat médiatique et politique s'articule sur le féminisme, c'est-à-dire il y a vraiment des récupérations nationalistes du féminisme ou des récupérations néolibérales du féminisme. On l'a vu là hier avec une candidate de droite qui pointait son engagement pour l'égalité femmes-hommes. On voit bien qu'en fait ça génère en fait une ambiance idéologique où il y aurait un bon féminisme qui serait laïque, qui serait sur l'égalité, etc. Puis il y aurait les mauvais féministes, les mauvaises féministes, intersectionnelles, radicales, queer, violentes, hystériques, celles qui dénoncent les violences, etc. Donc c'est une façon de casser en fait ce cadre du débat et essayer de restituer la complexité, la richesse du féminisme réel, en fait, c'est-à-dire de nos vies militantes.
Ce livre s'adresse à tout le monde, hein. Il fait un peu moins de 800 pages, il renseigne sur de nombreuses notions, il regorge de références et de ressources qui sont nécessaires pour être mieux armés face aux discriminations notamment. Selon vous, Elsa Dorlin, quels enseignements ou notions majeures pourrait-on retenir de ce travail collégial ?
Bah justement, je ne vais pas en retenir, parce que si c'est un travail collégial et qui est en lui-même un travail féministe, c'est-à-dire de voir qu'on pense collectivement et qu'on produit du savoir collectivement et qu'on pense mieux en commun que de façon individuelle, et que justement il n'y a pas à donner une priorité à tel ou tel combat ou telle ou telle contribution, parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins connues dans le livre, même des personnes très connues, des personnes pas du tout connues. Et l'idée, c'est plutôt ce qui est intéressant, c'est ce que produit un collectif, en fait, justement, avec des voix et des points de vue et des expériences et des engagements différents, mais qui encore une fois, convergent vers une pensée qui est forte de toutes ces luttes et qui a une puissance de renversement.
Elsa Dorlin, vous restez avec nous, on écoute un peu de musique et puis on poursuit notre entretien sur le féminisme et les mouvements féministes d'hier et d'aujourd'hui. Alex Hepburn nous chante Woman's World.
You gotta be fortunate, you gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad, but I'm the kind of woman that was built to last. They tried erasing me, but they couldn't wipe out my past. To save my time, I'd rather go hungry. Got all these wounds that just won't heal inside of me, and my blood flows through every man in this godless land that delivered me. I've cried so many tears, even the black can see. Woman, this is a woman's world. This is my. Called a witch. I've crackled in the fire. Now I've been called a liar. I've died so many times. I'm only just coming alive, woman. This is a woman's world. This is my.
C'était Alex Hepburn avec ce titre Woman's World en ce 8 mars où on célèbre la journée internationale pour les droits des femmes. Et sur CFM Radio, dans ce magazine, on parle de féminisme avec notre invitée Elsa Dorlin qui est à l'initiative d'un ouvrage collectif qui s'intitule Feu, abécédaire des féminismes présents. Un ouvrage qui permet un autre éclairage sur les mouvements féministes de ces 20 dernières années. Elsa Dorlin, en préparant cet entretien, j'ai souvent retrouvé que l'on vous qualifiait de philosophe féministe. Ça vous convient comme terme ?
Ben, c'est ce que je fais en partie. Après, on pourrait qualifier, oui, féministe. Après, est-ce que ça signifie que je ne suis, que je ne parle, que je ne travaille et que je ne peux parler que sur des enjeux liés au genre ou aux femmes ? Ça, c'est plus problématique. Moi, j'ai une appréhension des enjeux féministes qui est beaucoup plus globale, c'est-à-dire que pour moi, c'est une approche qui permet tout autant de penser la question du genre, évidemment, et des inégalités femmes-hommes, mais qui donne des outils, en fait, pour penser l'État, pour penser le néolibéralisme, pour penser les enjeux liés à l'écologie, à la destruction ou au saccage de l'environnement. C'est une pensée qui permet justement de réfléchir au travail, au renouvellement de ces approches. Et donc, en ce sens, Oui, c'est pas, j'ai pas envie d'être dans une cage et une case,
Et une case, oui.
exactement. Et mon travail est plutôt porte vraiment sur les enjeux de classe, de race et de sexe.
Oui,
Voilà.
vous dites même que le féminisme est l'un des champs les plus novateurs de la recherche philosophique actuelle. C'est-à-dire que le féminisme est un peu un carrefour de plusieurs luttes ou de plusieurs questionnements que l'on peut avoir peut-être depuis des dizaines d'années ou voire des siècles.
Ouais, c'est surtout que la sphère du savoir a été quand même monopolisée par une figure très, très élitiste, très masculine et très blanche. Et que bah, ça a des conséquences sur la façon dont on raconte le monde, mais ça a aussi des conséquences sur la façon dont on constitue les bibliothèques à partir desquelles on donne sens à ce monde. Et en ce sens, ce qui se passe au sein de la production de savoir avec la pensée féministe, bah, c'est une critique sévère de ça et qui permet d'ouvrir en fait à la fois notre perspective, d'enlever des œillères et d'être beaucoup plus sensible en fait à ce qui nous est utile pour changer le monde.
Pour vous, c'est quoi le féminisme, sachant que sur la langue et dans la bouche de certaines personnes, c'est presque un gros mot aujourd'hui d'être féministe ou de se revendiquer féministe. Pour vous, c'est quoi le féminisme?
Pour moi, c'est quoi le féminisme? C'est un mouvement historique, intellectuel, social, intellectuel, qui est très différent en fait, comme n'importe quel autre mouvement social, qui a plein de courants différents. Enfin, il peut même avoir un féminisme d'État ou un féminisme colonial, malheureusement. Mais aussi dans toute une partie de cette histoire du féminisme, il y a une charge révolutionnaire qui est très 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 forte. Et encore une fois, ça permet d'articuler en fait ce qui fait au sein du capitalisme, en fait, de penser ce qui relève d'une exploitation crasse, pas seulement de la force de travail des individus, mais de leur corps, enfin, du corps entier, de leur imaginaire, de la façon justement, ils entrent dans le monde. Et de ce fait, en fait, on voit bien que le féminisme, ça touche aussi à des enjeux, ça vient politiser en fait des enjeux qu'on laisse souvent du côté de l'intimité, du privé, de ce qui serait complètement personnel ou individuel, alors même que dans ces sphères-là, en fait, la famille, le corps, le désir vient se nicher en fait des rapports de pouvoir qu'il faut à la fois comprendre pour essayer de les extirper, et puis qu'il faut travailler encore une fois, pas seulement localement, mais qu'il faut essayer d'articuler de façon internationale, parce que ces rapports de pouvoir, ils s'effectuent aussi selon des contextes. Donc c'est une pensée aussi qui permet, et des mouvements qui ont aussi une finesse, parce que ils ont cette le féminisme a cette vertu d'être à la fois très localisé et en même temps d'éclairer autrement des enjeux globaux.
Parfois, on a l'impression hein, que c'est un combat nouveau, que ce sont des questions qui sont plutôt récentes, mais les notions d'égalité des sexes datent de plusieurs siècles déjà. Et je crois que même vous, dans votre parcours, très tôt, vous rencontrez tout un courant philosophique là, du XVIIe siècle. On peut parler quelques minutes, par exemple, de Gabriel Suchan.
Oui, moi, j'ai travaillé sur des philosophes femmes, des femmes philosophes au XVIIe siècle, donc ça paraît un peu contre-intuitif, en fait, d'imaginer qu'au XVIIe siècle, il y avait des femmes philosophes et que, qui plus est, au XVIIe siècle, il y a eu un débat très, très, très important dans la philosophie sur l'égalité des sexes, l'égalité entre les hommes et les femmes, et que ce débat a été houleux, acharné, très, très conséquent. et que une des philosophes d'ailleurs que l'histoire a oublié, qui s'appelle Gabrielle Suchon, a produit deux traités majeurs très conséquents de plus de 800 pages chacun, et qui démontrent en fait l'égalité naturelle entre les femmes et les hommes, et qui expliquent en fait que si dans les faits justement ce que l'on voit c'est l'inégalité, c'est précisément parce que y a toute une organisation sociale et politique, intellectuelle, qui vient au fond priver une partie de l'humanité des ressources vitales qui lui permettent de devenir un sujet à part entière. Et ces ressources, bah, c'est évidemment l'accès au savoir, la liberté et l'accès à des positions de pouvoir. Mais on voit bien que, au fond, ce qui se joue aussi, là, c'est au XVIIe siècle. C'est qu'au même moment où toute une partie de la pensée européenne vient promouvoir, au fond, l'idée d'une égalité naturelle et d'un contrat social, au même moment, en fait, elle exclut une partie de l'humanité de ce contrat social au nom d'une inégalité naturelle. Et au même moment, au fond, elle s'engage dans une entreprise de saccage de l'environnement et de la nature, mais aussi elle s'engage dans un système qui est l'esclavagisme et qui va exclure purement et simplement des millions de personnes et des peuples et des cultures entières du statut même d'humain.
Pour finir, Elsa Dorlin, quelques mots sur vos sujets de recherche actuels. Sur quoi vous travaillez là tout de suite, là? Sur quel sujet?
Sur beaucoup de choses, mais voilà, je continue à travailler ce qui constitue ma problématique majeure, c'est-à-dire comment on peut penser, comment on peut analyser et comprendre la façon dont les rapports de pouvoir qui relèvent à la fois des antagonismes de classe, du racisme et du sexisme constituent au fond une même matrice, et comment on peut essayer d'apporter des outils à la fois aux individus et aux collectifs pour changer et renverser cette matrice et juste produire des formes de vie et même construire un monde où la vie sera possible, parce que comme vous n'êtes pas là, enfin, vous voyez, personne ne l'ignore aujourd'hui, en fait, on est plutôt dans des conditions assez mortifères.
Elsa Dorlin, professeure de philosophie politique contemporaine à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je rappelle l'ouvrage qui vient de paraître, hein, il s'intitule « Feu, abécédaire des féminismes présents », c'est aux éditions Libertalia. Merci beaucoup d'être intervenue sur CFM Radio aujourd'hui en ce 8 mars.
Merci à vous, merci.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
You've got to say to me, I've been waiting for so long to hear the truth. It comes as no surprise, oh, you see, to cut the crap and tell me that we're through. Now I know your heart, I know your mind, you don't even know you're being unkind. So much for all your highbrow marks twice. I can never be a woman.
CFM Cordes.